bien sûr.
Je le savais.
Eureka.
Au tournant du 19e et du 20e siècle, les infections bactériennes étaient l'une des causes principales de mortalité. Avec la découverte de la pénicilline et sa rapide production à échelle industrielle, on a cru que les antibiotiques seraient le remède miracle qui sauverait définitivement l'humanité d'infections jusqu'alors sans traitement efficace. C'était malheureusement sans compter sur un phénomène d'adaptation des bactéries aux antibiotiques, connu sous le nom d'antibiorésistance, devenu en un demi-siècle un problème de santé publique à l'échelle mondiale. Antibiotiques, vie et mort des bactéries, c'est l'histoire d'une découverte médicale à double tranchant que nous allons vous raconter dans l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour nous raconter cette histoire des antibiotiques qui continue de s'écrire, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Anne-Marie Moulin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, philosophe, directrice de recherche émérite CNRS au laboratoire Sphère, professeur associé à l'université Senghor d'Alexandrie au sein du département Santé. Nous sommes également en studio avec Vincent Libis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au sein de l'unité évolution et ingénierie des systèmes dynamiques à l'INSERM et vous êtes à l'initiative du projet de science participative Science à l'appel. Et pour commencer cette émission, on écoute la traditionnelle archive. Il s'agit d'une archive de 1958, au temps où l'on rêvait aux miracles antibiotiques.
La science n'a d'ailleurs pas fini d'ouvrir des domaines nouveaux. C'est ainsi que le professeur Pied-de-Lièvre vient de présenter à l'Académie de médecine un rapport sur les qualités antibiotiques du champignon de Paris qui peuvent en faire l'un des éléments importants de certains traitements. Qui eût hier pensé cela du joli champignon de couche qui fut l'hôte des cuisines avant de devenir celui des laboratoires? Et sait-on que sa culture, dont les carrières des environs de Paris sont le domaine principal, couvre dans toute la France près de 1200 hectares, 1200 hectares sous terre? Curieuse culture d'ailleurs, qui s'étend dans la nuit et le silence des souterrains, étoilée tous les matins de blanches végétations à la fois nourricières et guérisseuses. La cuisine et la pharmacie.
1958, au temps donc, je le disais, où l'on rêvait au miracle des antibiotiques. Anne-Marie Moulin, avant de franchir ce pas de la découverte des antibiotiques, dont on parlera évidemment tout à l'heure, j'aimerais qu'on comprenne un petit peu le contexte dans lequel sont apparus les premiers travaux autour des bactéries. Un contexte, je crois, au 19e siècle, où les maladies infectieuses causaient un nombre de morts très 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 conséquent. Quelles étaient les principales maladies bactériennes au tournant du 19e et du 20e siècle?
À la fin du 19e siècle, on découvre les microbes, et en particulier le microbe de la tuberculose, qui est découvert par l'allemand Robert Koch. Et il y a une décennie, de 1880 à 1890, où à toute allure, on découvre les principales bactéries correspondant à des maladies infectieuses très graves comme la diphtérie, la fièvre typhoïde, la méningite, etc. Donc on possède à cette époque un véritable répertoire des bactéries causant une grande partie de la mortalité.
Mmh. Je crois que la moitié de la mortalité était due à ces infections bactériennes, Anne-Marie Moulin.
Oh, vous savez, c'est un chiffre. On peut dire qu'effectivement, disons la moitié si vous le voulez, moi j'aurais dit un peu moins, de la mortalité en Europe en tout cas, est due aux maladies infectieuses.
Mmh. Quels remèdes étaient appliqués pour ce type de maladies qui étaient des maladies sans remède? Comment est-ce qu'on essayait de les soigner alors, Anne-Marie?
Alors justement, il y a avant les antibiotiques, il y a une période intéressante, à savoir la découverte des antiseptiques, c'est-à-dire des substances qui nettoient tout simplement. En particulier, par exemple, la créosote. La créosote, c'est comme on pourrait dire l'eau de Javel. Ça vous rappellera quelque chose, cette histoire d'eau de Javel. Et en fait, le problème, c'est de l'administrer aux patients. Ce sont des substances toxiques, comme l'eau de Javel. Et un clinicien à Paris, par exemple, entreprend d'administrer aux patients qui ont des maladies infectieuses de la créozote, donc qui est un antiseptique qu'on utilise pour nettoyer, dans des dragées, de façon à ce que ça arrive dans l'intestin. Évidemment, c'est trop toxique pour être utilisé par voie intraveineuse. Ça ne marche pas, et surtout, c'est absolument épouvantable, puisque les pauvres patients ingèrent des espèces de boulettes avec de la créozote. Et c'est pour vous dire qu'il y a déjà cette idée qu'une substance chimique introduite dans le corps pourrait éliminer les bactéries.
Si on en revient au contexte un peu plus général de la bactériologie, je crois que Pasteur lui-même avait soulevé un peu le voile de ce qu'on appelle l'antibiose, ou en tout cas le fait qu'il y ait certains micro-organismes qui sont antagonistes et qui luttent les uns contre les autres. Qu'est-ce que Pasteur avait pu mettre en évidence qui prépare de très loin le terrain à la découverte des antibiotiques?
Pasteur a surtout œuvré sur l'utilisation, de, comme vous le savez, des vaccins, du vaccin contre la rage, pour prévenir, et non pas véritablement traiter, mais prévenir l'infection par ce qu'on ne savait pas encore être un virus.
Alors après, il y a quand même quelques travaux qui sont un petit peu préliminaires à cette découverte de la pénicilline. En 1897, un certain Ernest Duchesne découvre que certaines moisissures, dont une certaine déjà Penicillium, peuvent neutraliser la prolifération des bactéries. Mais Anne-Marie Moulin, je crois que cette découverte n'intéresse pas grand monde et que finalement, ça retombe un peu à plat.
C'est surtout le fait qu'on fait une observation au laboratoire intéressante. On a des cultures, on a les bactéries qui attaquent le corps humain, on les a dans une boîte de pétri, dans une assiette, si vous voulez. On les voit, mais en même temps, on ne sait pas comment transférer ce qui peut être efficace dans l'assiette à quelque chose qui est efficace directement dans le corps humain. C'est tout ça, c'est le problème, et ça sera le problème de la pénicilline.
Mmh. Vincent Libis, si on parle de ce tournant du 19e, du 20e siècle, il y a d'autres expériences vaguement thérapeutiques qui sont réalisées, mais qui, elles aussi, restent lettres mortes du fait de leur trop forte toxicité, par exemple. Est-ce que vous pourrez nous parler un petit peu, justement, de ce tournant-là et du fait que à l'époque, on n'a pas encore vraiment d'outils qui nous permettent de dire que certaines bactéries peuvent s'en prendre à d'autres?
Ah ben, je suis pas du tout expert sur la partie historique, la découverte des antibiotiques, mais c'est vrai que, comme vous le mentionnez, Louis Pasteur avait déjà fait réalisé en fait que en mettant deux organismes en présence l'un de l'autre, l'un pouvait inhiber l'autre, mais il n'avait pas encore eu le lien logique en fait qu'il s'agissait d'un composé synthétisé par un des micro-organismes qui inhibait l'autre. Donc, c'est ce lien en fait qu'a fait Fleming en 1929.
Avant d'en arriver à Fleming, il y a plusieurs figures, un petit peu de l'ombre aussi, qui ont préparé le terrain à la découverte des antibiotiques. Je pense à un certain René Dubos, un chercheur français qui travaillait à l'Institut Rockefeller aux États-Unis. Vincent Libis, parlez-nous un petit peu de cette figure-là, qui a été une figure très importante dans l'histoire des sciences, mais qui est aujourd'hui un petit peu moins connue.
Ouais, René Dubos, donc c'était un chercheur français, mais qui s'est expatrié aux États-Unis, donc à l'Institut Rockefeller. À vrai dire, même moi, je suis pharmacien de formation, mais je me souvenais pas en fait de René Dubos. Et c'est en allant travailler là-bas 5 ans à l'Institut Rockefeller en fait que j'ai appris vraiment sa contribution. Et en fait, c'est le premier qui a eu l'idée de se tourner vers le sol. Et vers les milliers d'espèces de bactéries qui se trouvent dans le sol pour trouver une solution potentielle pour inhiber une bactérie pathogène de l'homme. Donc il a fait une expérience très simple. En fait, il a pris une poignée de terre et il l'a mis sur une boîte de pétri pour isoler les bactéries, faire pousser les bactéries qui sont contenues dans le sol. Et il a ainsi remarqué que certaines de ces bactéries produisaient donc des composés. Il a découvert la gramicidine. C'est le premier antibiotique qui a été commercialisé après un essai clinique. Et en fait, c'est ce succès-là qui ensuite a retourné le feu des projecteurs vers la pénicilline et qui a relancé la recherche du côté de la pénicilline.
Anne-Marie Moulin, une réaction?
Oui, une réaction parce que ce que Vincent ne dit peut-être pas tout à fait assez énergiquement, c'est que ça n'est pas facile de cultiver les bactéries du sol. Il
pour
est
quelle raison?
Facile
Pour
de...
quelle raison?
Ah, mais c'est peut-être à lui, alors, pour le coup, de répondre. Ce que je sais, c'est concrètement, pratiquement, quand des collègues, justement, les collègues russes à Pasteur ont travaillé sur ces bactéries du sol, ils ont énormément eu de difficultés pour les cultiver. Or, si vous voulez obtenir un produit dérivé de ces bactéries du sol, il faut les cultiver. Donc, il faut trouver le milieu adéquat.
Mmh. Et on verra que ça a un rôle essentiel justement tout à l'heure on le verra dans l'industrialisation de la production d'antibiotiques à base de pénicilline. Vincent Libis, une réaction sur cette difficulté à mettre en culture ces bactéries.
Non, c'est tout à fait vrai, c'est un bon point, et on pense que on est capable de cultiver à peu près 1% des bactéries qui vivent dans le sol. Mais dans le sol, en fait, c'est un milieu extrêmement riche. On peut trouver dans un gramme de sol plus d'un millier d'espèces différentes, en fait. Et toutes ces espèces, elles sont en compétition permanente, et donc elles produisent des molécules de défense pour en fait inhiber la croissance de leurs bactéries compétitrices, entre guillemets. Et c'est vraiment ça qu'a fait la médecine humaine, en fait, c'est de voler cette défense chimique, qui est originellement donc une invention bactérienne, et pour la retourner contre les infections propres à l'homme.
Grâce à une forme d'opportunisme de savant, et notamment d'un savant dont on a déjà évoqué le nom à ce micro, c'est Fleming.
France Culture, Eureka, Antoine Beauchamp.
On en arrive à une année clé en matière de découverte des antibiotiques. Anne-Marie Moulin, c'est l'année 1928. Avant d'en venir à la découverte en elle-même de l'action antibiotique de la pénicilline, on peut peut-être remettre en contexte le personnage qu'était Alexander Fleming, l'Écossais. À quoi il se consacrait à l'époque en matière de travaux de recherche, et puis quelle était son histoire un petit peu en lien avec cette idée de soigner les humains?
Ouais, soigner les humains, c'est normalement le but de tout médecin, mais y compris évidemment en passant par le laboratoire comme l'a fait Fleming. Dans l'histoire de Fleming, c'est une presque trop belle histoire. Les historiens auraient probablement beaucoup à dire sur cet épisode. Il laisse une culture de bactéries traîner sur la paillasse, et elle est, comme nous le savons tous, très facilement contaminée par une moisissure dans un petit coin. Et là, c'est là le coup d'œil génial. Il se dit, ah ben, s'il y a une lyse, une destruction des bactéries autour de la moisissure, c'est que la moisissure a un effet sur la bactérie. Et cette idée, à la fois simple et géniale, s'inscrit donc dans un projet de sa part de lutter contre les maladies infectieuses, en particulier dans le contexte du petit groupe autour de Almroth Wright, qui est une figure intéressante de la médecine et de la bactériologie britannique. Et alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle d'emblée de la suite.
Alors,
donc finalement,
avant de parler de la suite, on peut peut-être se poser la question, Vincent Libis, de l'interprétation que fait Fleming de cette trouvaille-là. Est-ce qu'il a immédiatement la sensation d'avoir fait une découverte capitale dans l'histoire de la médecine et dans l'histoire des traitements médicaux?
Bah, je suis pas expert, mais je crois qu'il s'en est rendu compte assez vite. Et ça, c'est du coup cette découverte, c'est vraiment un exemple typique de sérendipité scientifique. Donc d'avoir un petit peu de chance, mais pour un esprit préparé comme celui de Fleming, il a su en fait avoir l'intuition qu'il était en fait en train d'observer un phénomène clé et qu'il pourrait utiliser cette pénicilline ensuite en médecine humaine. Mm-hmm. Mais cela dit, il me semble qu'à l'époque, la découverte est passée assez inaperçue et il a laissé en fait la pénicilline sur les étagères de son laboratoire pendant une dizaine d'années ensuite, avant que vraiment elle soit remise au goût du jour.
C'est ça qui est vraiment très intéressant dans cette histoire de la découverte de la pénicilline, Anne-Marie Moulin, c'est que Fleming fait quand même cette découverte capital, mais il a la volonté d'en faire un médicament rapidement, il y parvient pas, il met ça de côté, personne ne s'y intéresse. Ça, c'est assez étonnant, il faut le rappeler, et ça permet aussi de compenser un peu cet aspect légendaire que vous évoquiez tout à l'heure.
D'abord l'aspect légendaire, enfin, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur la légende. Je pense que c'est une constatation très simple. La moisissure fait disparaître dans le champ de la boîte de Pétri au laboratoire, elle fait disparaître les bactéries. Mais il y a un saut considérable avec le transfert d'une pareille action dans l'organisme. Et c'est là que, quand vous dites que Fleming a fait des tentatives, je ne pense pas qu'il ait fait beaucoup de tentatives pour obtenir une production et commencer ce qu'on appellerait aujourd'hui des essais cliniques. Je pense qu'il voyait que le chemin était très long et qu'il n'a pas poursuivi plus, on peut dire ça, plutôt que de dire qu'il a essayé et qu'il n'est pas arrivé.
Il faut attendre 10 ans, du coup, et se tourner du côté d'Oxford pour que une équipe qui est dirigée par Howard Forey et Ernst Chain reprenne quand même ces travaux initiés par Alexander Fleming. Quels sont alors leurs objectifs à partir de cette pénicilline-là, Anne-Marie Moulin?
À partir de cette pénicilline produite de façon industrielle, c'est là qu'on change complètement d'optique, on change de métier. Forey et Chain vont travailler en chimiste pour extraire la substance et la produire en quantité suffisante pour commencer des essais. En quantité d'ailleurs très longtemps, très insuffisante. On commence à traiter des malades en 1941 et on manque tellement de pénicilline pour poursuivre des essais à plus grande échelle que l'on utilise la pénicilline qui est contenue dans l'urine des patients. Finalement, on veut récupérer la précieuse drogue.
Vincent Libis, il y a cette difficulté de reproduire, de purifier la pénicilline. Vous avez fait des études de pharmacie. Est-ce que vous savez un petit peu comment, à cette époque-là, déjà, on s'y prend pour reproduire, purifier un matériel qui est organique?
Alors, malheureusement, je suis pas du tout expert sur la partie de pénicilline, mais je peux rebondir sur ce qui s'est passé du côté de René Dubos, parce que lui, du coup, a découvert cette gramicidine. Et donc, les méthodes sont assez similaires à ce qui se fait aujourd'hui. Donc, c'est des méthodes d'extraction avec des solvants. Et en fait, on est capable d'extraire la molécule chimique de défense du micro-organisme lui-même, de sorte qu'ensuite, on ait la molécule purifiée qu'on peut mettre dans une pilule et ensuite administrer à l'homme.
Anne-Marie Moulin, on l'administre, cette pénicilline, en 1941, vous le disiez, à partir de... Ouais, avec de bonnes doses, finalement, puisque les premiers essais sont pas forcément très concluants chez l'homme. Je crois qu'il y a un essai qui est réalisé chez un gendarme qui s'était coupé la joue avec des épines de rose, qui avait fait une espèce de septicémie, et puis on a essayé de le soigner avec de la pénicilline. Il est quand même mort de cette septicémie, faute justement d'une dose adaptée. À partir de quand, justement, on parvient à établir les bonnes doses?
Ben, en fait, on utilise des faibles doses. Et la chose très frappante, c'est qu'avec des faibles doses, on obtient des résultats. On a des résultats qui correspondraient à ce qu'on appelle aujourd'hui 10 000 unités, ce qui est une dose extraordinairement faible, puisque très vite, on passera à des millions d'unités. Et la surprise des bactéries peut-être aussi, c'est que finalement, ça marche. Ça marche pas toujours, mais ça marche avec des doses extrêmement faibles. Donc au début, on peut espérer, en dépit de la faible production, obtenir une drogue qui change complètement la situation, à tel point que bien sûr, il y a, on voit par exemple Franco, le dictateur espagnol, qui supplie qu'on lui envoie de la pénicilline parce qu'il veut, c'est une époque où il a envie politiquement de prendre un petit peu une stature différente et il veut passer pour celui qui va sauver son peuple des infections.
C'est intéressant ça que vous évoquiez la figure de Franco, parce que quand même c'est un moment d'instabilité mondiale, c'est la Seconde Guerre mondiale, ça va contribuer, Anne-Marie Moulin, au succès des antibiotiques, à leur progrès à vitesse grand V, notamment dans la production à grande échelle.
Ça en fait un enjeu politique important. D'ailleurs, l'Institut Pasteur est Vincent pourrait en parler. L'Institut Pasteur a joué un rôle dans le fait de récupérer de la pénicilline pour la faire passer, notamment à des résistants blessés, etc. Donc il y a tout un et ça va de pair évidemment avec l'année 45 qui est quand même une année de libération et d'espoir.
Vincent Libis, si on prend un petit peu de recul, est-ce que avec la pénicilline, avec la découverte des antibiotiques, naissent finalement les biotechnologies? Est-ce que c'est à ce moment-là que on va vraiment essayer d'extraire des substances naturelles pour en faire des molécules qui vont être utiles à la santé humaine?
Je pense qu'on pourrait dire ça, ouais. Je pense que beaucoup de gens s'accorderont à dire sur le fait que la découverte de la pénicilline et des antibiotiques, c'est sinon la majeure découverte de la médecine au XXe siècle, sinon très proche. Et en fait, c'est une découverte de se rendre compte de la richesse et vraiment ce que peuvent apporter les micro-organismes pour la santé humaine. Et donc, pas seulement voir les micro-organismes comme une menace, comme les causes d'infection, mais aussi comme une potentielle solution à ces infections.
Qui est une symbiose finalement salutaire pour tout le monde. Anne-Marie Moulin, Fleming, Florey et Chain vont obtenir le prix Nobel de médecine, de physiologie et de médecine en 1945 pour cette découverte de la pénicilline. Est-ce que à l'échelle mondiale, les antibiotiques sont finalement colonisent le monde et deviennent le remède miracle, le remède utilisé partout pour tous?
À pas à partir de 1945, puisque comme je vous le dis, la production de pénicilline est encore très très limitée, mais surtout il va y avoir d'autres antibiotiques qui apparaissent très rapidement, et en particulier une bactérie du sol chère à Vincent, c'est la streptomycine avec Waxman, Salman Waxman aux États-Unis, qui est une molécule qui va être utilisée dans une maladie pour laquelle la pénicilline ne paraissait pas très offensive, c'est la tuberculose. Donc la streptomycine, c'est 2 ans plus tard, et c'est un antibiotique qui apparaît très prometteur.
Vincent Libis, sur cette streptomycine qui s'insère dans cette ruée vers les antibiotiques qui a lieu au tournant des années 40.
Moi, je pense que c'est une découverte majeure, effectivement, et c'est pas tellement d'avoir découvert la streptomycine, mais surtout l'approche qui a permis de la découvrir, qui en fait ensuite a été utilisée pour découvrir des centaines d'autres molécules actives à partir de streptomyces, par exemple, ces bactéries qui fabriquent la streptomycine. Et là encore, Salman Waxman était en fait l'encadrant de thèse de René Dubos. Et en fait, c'est inspiré de cette idée de René Dubos de chercher des bactéries à partir du sol, mais a passé à très grande échelle cette idée. Et ensuite a découvert, il semble, une trentaine de molécules qui sont encore en utilisation courante dans la pharmacopée actuelle.
Mmh. Anne-Marie Moulin, ça c'est intéressant cette notion de quantité. Est-ce qu'on a, dans les 10 premières années voilà, de la découverte des antibiotiques, on a une idée du nombre de molécules qui émergent et du nombre de maladies finalement qui peuvent être combattues à partir de ces nouveaux antibiotiques?
Non, il y a un enthousiasme qui est tout à fait flagrant, mais en même temps, j'insisterai sur le fait que dès le début, la possibilité de résistance, alors qu'on n'est pas encore à l'acmé de la découverte, a été exprimée par les pionniers. Fleming, pour la pénicilline, a parlé très tôt de la possibilité qu'il y ait une résistance ou que la pénicilline ne soit plus efficace. Et de même, pour la streptomycine, dès le début, on a constaté que même en augmentant la dose, et là se pose le problème de la toxicité, même en augmentant la dose, très vite, la streptomycine connaît des échecs.
Alors, ça, on en parlera bien évidemment dans un second temps de cette émission du problème majeur que représente l'antibiorésistance. J'aimerais peut-être qu'on se concentre quand même, si vous le voulez bien, dans un premier temps sur les conséquences positives et bénéfiques de la découverte des antibiotiques. Anne-Marie Moulin, concrètement, voilà, quelles maladies peuvent être soudain traitées et de façon efficace grâce à cette découverte des antibiotiques?
Potentiellement, toutes les infections bactériennes connues, puisqu'actuellement, à ce moment-là, les virus ne sont pas au premier plan. Et donc, oui, il y a une espèce d'ouverture très large sur le monde des infections bactériennes. Et c'est effectivement un grand espoir, espoir qui est surtout manifeste dans la communication au grand public. J'insisterai sur le fait qu'on est donc à la fin de la Deuxième Guerre, et que dans cet horizon épouvantable qui est légué par les années de guerre, tout d'un coup, on a besoin de croire en quelque chose, et les antibiotiques arrivent au bon moment.
Ce qui est intéressant quand vous parlez d'espoir, c'est qu'il y a aussi un espoir économique majeur du côté de l'industrie pharmaceutique. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots, Anne-Marie Moulin, et le fait que très rapidement, ces industriels voient l'intérêt qu'ils peuvent trouver à développer de façon industrielle, c'est le cas de le dire, ces antibiotiques?
Alors, je pense que c'est pas c'est une histoire progressive. Je pense que c'est plutôt un peu plus tard que les compagnies pharmaceutiques s'organisent et qu'en particulier Pfizer lance la théramycine et commence à une ascension prodigieuse qui d'ailleurs dure jusqu'à aujourd'hui puisque Pfizer vient de sortir un vaccin contre le Covid.
Mmh. Vincent Libis, sur cet accompagnement de l'industrie pharmaceutique, en préparant cette émission, je disais que justement, il y avait quand même un effort de guerre à fournir, que la pénicilline était perçue comme le remède miracle pour soigner les soldats qui étaient envoyés un petit peu partout dans le monde, les soldats américains, et que finalement, l'industrie s'est mise dans ce sillage-là assez rapidement.
Ben oui, il me semble que c'est ça a un peu constitué le socle en fait des big pharma actuels vraiment à ce moment-là, donc pendant l'âge d'or en fait de découverte des antibiotiques et au fond pas seulement des antibiotiques mais parce que les mêmes méthodes en fait ont permis à partir de bactéries de trouver aussi des anticancéreux, de trouver des immunosuppresseurs, donc en fait d'avoir découvert cette mine d'or thérapeutique potentielle dans les bactéries. Je pense à constituer vraiment le socle. Et malheureusement, aujourd'hui, on en touchera peut-être un mot plus tard, mais malheureusement, l'industrie, actuellement, s'est un peu désintéressée.
C'est retiré, ouais.
Voilà.
Ouais.
Et donc, durant l'âge d'or, entre 1940 et la fin des années 70, on a découvert la grande majorité des molécules antibiotiques qu'on a aujourd'hui. Et là, depuis, on a beaucoup de mal à trouver de nouvelles familles d'antibiotiques.
Puisque vous évoquez les années 70, c'est intéressant aussi de s'arrêter sur cette décennie qui voit le séquençage ADN arriver. Ça aussi, ça va jouer un rôle important dans la découverte de nouvelles molécules antibiotiques. Expliquez-nous un petit peu, Vincent Libis, comment ça fonctionne, ce séquençage, et comment finalement on va pouvoir anticiper le fonctionnement de certaines bactéries vis-à-vis d'autres bactéries.
Alors effectivement, les méthodes ont été développées dans les années 70, elles étaient encore un petit peu balbutiantes.
Oui, oui. Le vrai bon moment, c'est...
Finalement, c'est un peu aujourd'hui là qu'on a la puissance de feu en termes de séquençage pour avoir un impact dans ce domaine. Mais effectivement, avec les méthodes classiques donc de chimie, si on a un nouveau micro-organisme sur une boîte de pétri, par exemple, on va pouvoir essayer de mesurer s'il fabrique une molécule nouvelle ou non. Mais maintenant qu'on a découvert la grande majorité des molécules très communes, en fait, c'est un processus qui est devenu très coûteux d'utiliser des approches classiques. Maintenant qu'on a le séquençage de l'ADN de notre côté, on est capable de lire l'ADN des micro-organismes et de prédire, juste en lisant cette séquence d'ADN, s'il s'y trouve des gènes nouveaux, donc des gènes qui ont un potentiel d'encoder des nouveaux antibiotiques. Donc, une sorte de recette génétique qui montre le potentiel à fabriquer une nouvelle molécule. Et donc, c'est un petit peu ça qu'on exploite aujourd'hui, et c'est ce qui nous donne un peu d'espoir, en fait, aujourd'hui, c'est que le prix du séquençage a diminué d'un facteur 10 millions durant les 15 dernières années. Donc maintenant, c'est devenu très peu cher, en fait, de séquencer les bactéries. Et c'est ça qu'on essaie de faire, par exemple, dans notre laboratoire à l'INSERM, de pouvoir trier très rapidement quelle bactérie a un potentiel et laquelle n'a pas d'intérêt, grâce à ces nouveaux gènes.
Parce qu'aujourd'hui encore, on cherche de nouveaux antibiotiques et là, vous l'évoquiez à l'instant, c'est pas du tout une approche thérapeutique qui a été complètement mise de côté.
Non, il y a une étude récente qui estime qu'on a découvert seulement 3% des produits naturels microbiens. Donc il reste une énorme diversité à fouiller. Malheureusement, les 3% qu'on a découvert, c'est les plus communs. Donc ça va être beaucoup plus dur de trouver les 97% qui restent. Mais c'est un champ de recherche actif, notamment dans notre laboratoire et notamment via le projet de science participative qu'on vient de lancer, Science à l'appel, où en fait on appelle les citoyens de France, métropolitaine et Corse, à nous envoyer des échantillons de sol par la poste au laboratoire. Et dans ces échantillons, on va isoler les bactéries qui s'y trouvent, à extraire leur ADN, essayer de détecter dans cet ADN des nouveaux gènes, et si on en trouve, ensuite essayer d'activer ces gènes en laboratoire pour obtenir les antibiotiques qu'ils encodent.
Anne-Marie Moulin, on va parler bien sûr tout à l'heure du phénomène d'antibiorésistance, qui est un phénomène très inquiétant et un enjeu de santé publique mondiale, je le disais en introduction de cette émission, mais on peut peut-être quand même rappeler que les antibiotiques constituent encore parfois et souvent un recours intéressant, qu'il n'y a pas eu un âge d'or puis un âge sombre. Expliquez-nous un petit peu le statut qu'ont aujourd'hui les antibiotiques dans un cadre thérapeutique plus général.
Je pense qu'il demeure des indications et des indications dans lesquelles les antibiotiques marchent très bien. Donc, il ne faut pas passer à un pessimisme radical. Mais je salue l'initiative du laboratoire de Vincent, parce que son initiative de science citoyenne est extrêmement importante dans un contexte actuel où le public est parfaitement conscient de ce problème de résistance, de l'acquisition des infections hospitalières, etc. Et le fait de lui redonner la main ou un rôle dans la conduite de la science est, à mon avis, une façon très intelligente de rétablir une entente, une compréhension et une confiance.
Et on mettra bien évidemment, Vincent Libis, le lien vers votre projet de science participative sur la page de l'émission. Si vous souhaitez mettre les mains dans la terre et puis aider la science, pourquoi pas. En tout cas, restez avec nous parce qu'après avoir évoqué ce côté lumineux de la force des antibiotiques, on va parler bien sûr de leur côté un peu plus obscur et notamment de l'antibiorésistance, mais aussi des solutions envisagées pour limiter ses effets. Ce sera juste après ça. This fever, this fever, this fever, this fever,
your touch, your fingertips, your mouth, your voice, your lovely lips. Can notice how I tremble now. Your sleepy eyes have read my mind. It made your pale skin blush like wine. My heart is beating faster now. Oh, every time we kiss I feel the temperature is rising to the max. Oh, when it feels like this, my skin is melting off my body just like wax. No medicines or vitamins can cure this. Your unkempt hair, the perfect fit on clothes you wear, can give me goosebumps anytime. I have this weird taste in my mouth, a mix of blood and my self-doubt. I try but just can't spit it out. Oh.
Fever par JJ Johansson et Jeanne Haddad dans Eureka sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de la découverte des antibiotiques et de leur développement. Et nous en parlons avec Anne-Marie Moulin, directrice de recherche émérite CNRS au laboratoire Sphère, professeure associée à l'université Senghor d'Alexandrie au sein du département Santé. Avec nous également Vincent Libis, chercheur au sein de l'unité évolution et ingénierie des systèmes dynamiques à l'INSERM et initiateur du projet de science participative Science à l'appel. Alors après avoir évoqué la découverte des antibiotiques et ses effets bénéfiques immédiats sur la santé publique, on en vient à un aspect concomitant de cette découverte, le développement de l'antibiorésistance. Écoutez cette archive du journal télévisé de France 2, c'était en 1975 et l'antibiorésistance posait déjà problème.
30% des médicaments consommés par les Français sont des antibiotiques. Leur prix élevé ne les empêche pas d'arriver en troisième position dans la liste des médicaments les plus vendus, au grand bonheur des laboratoires pharmaceutiques. Remèdes miracles pendant des années, ils sont aujourd'hui remis en question. Certains microbes détruits par les antibiotiques se sont non seulement adaptés à eux, mais arrivent maintenant à se défendre.
La remise en question des antibiotiques est la conséquence de leur emploi très large et peut-être même excessif. Leur emploi très large était justifié par le fait que lorsqu'ils sont apparus, ils ont pour la première fois amené à guérison des maladies qui étaient autrefois inéluctablement mortelles.
Certes, les médecins n'oublient pas les avantages des antibiotiques et se gardent bien de les condamner. Mais ils se sont rendus compte que dans certains cas, l'antibiotique agit comme un révélateur. En détruisant les microbes sensibles, ils sélectionnent en quelque sorte les autres, les souches résistantes qui ont ainsi le champ libre.
Plus on utilise les antibiotiques, plus ils tendent à perdre leur efficacité.
Voilà une réaction à cette archive du journal télévisé de France 2, Anne-Marie Moulin.
Oui, c'est cette émission-là ne dit pas, c'est que le fait que les antibiotiques sont devenus effectivement largement utilisés, sont devenus une sorte de panacée et ont été utilisés dans un très nombre d'indications. Et les laboratoires pharmaceutiques ont eu vraiment une responsabilité dans la mesure où ils ont beaucoup poussé à consommer l'antibiotique sans même se préoccuper du diagnostic. Un des grands éléments d'incitation était de dire « vous pouvez traiter votre malade sans passer par le laboratoire
». Quelles indications, par exemple, qui nous paraîtraient absurdes aujourd'hui, étaient à l'époque vouées à connaître une prescription d'antibiotiques, Anne-Marie Moulin ?
Le rhume, par exemple, le rhume. Le rhume, ça n'est normalement pas méchant, mais ça vous gêne quand même pour aller travailler. Le rhume, la patraquerie, tout simplement. Donc finalement, l'antibiotique à la portée de tout le monde, parfois sur une durée très brève, pour, et les historiens l'ont bien montré, rendre très rapidement l'enseignant à son école, l'ouvrier à l'usine, etc. Ça changeait complètement la conduite de la vie. La convalescence, ça cesse d'avoir un sens social.
Ce qui est intéressant aussi, et vous le rappeliez tout à l'heure, Anne-Marie Moulin, c'est que Fleming lui-même, dans son discours du prix Nobel en 1945, mettait en garde l'humanité contre ce développement d'une résistance des bactéries aux antibiotiques. Pourquoi est-ce qu'alors il n'a pas été écouté, ou en tout cas, pourquoi est-ce que ça n'a pas été pris suffisamment au sérieux?
Parce que je pense qu'il y a eu d'abord un engouement qui a été puissamment appuyé par une publicité. L'industrie pharmaceutique découvre avec délice la publicité. Et cette publicité, elle touche à la fois le public, mais aussi les médecins. Les médecins qui aiment, en dehors de la question des hôpitaux, aiment quand même soigner et guérir leurs patients. C'est tout à fait normal. Les médecins de ville s'emparent des antibiotiques et donc amplifient encore le mouvement qui par ailleurs est puissamment stimulé par l'industrie pharmaceutique.
Vincent Libis, d'un point de vue biologique, qu'est-ce qui fait qu'une bactérie va devenir résistante à un antibiotique? Qu'est-ce qui se passe et quelles sont les possibles voies de résistance pour une bactérie à un antibiotique?
En fait, les bactéries, c'est des êtres vivants comme les autres, donc ils ont tous cette capacité d'évolution. Donc s'ils sont mis fréquemment en contact avec une molécule qui est nocive pour eux, ils vont être capables de s'adapter avec le temps. Et donc plus souvent ils sont mis en contact avec ces antibiotiques, donc plus on les surutilise, plus on va favoriser l'émergence de résistants qui ensuite vont devenir la population majoritaire de ces bactéries. Elles sont toutes résistantes à l'antibiotique donné.
Et d'un point de vue temporel, combien de temps une bactérie peut-elle mettre à s'adapter à un antibiotique ?
Si on surutilise un antibiotique, ça peut aller très vite. Par exemple, nous, quand on découvre une nouvelle molécule avec des propriétés antibiotiques au laboratoire, en quelques jours, si on force les choses, on peut obtenir des résistants, en général, à cette molécule. Donc tout est une question, en fait, de dans quelles conditions on les utilise, à quelles conditions on les surutilise.
Anne-Marie Moulin, à partir de quand les scientifiques se sont intéressés à ce phénomène d'antibiorésistance et ont mis en évidence des preuves du risque que comportait cette réaction des bactéries aux antibiotiques?
D'abord, il faut voir que parallèlement, la compréhension de la biologie des bactéries et des virus a changé, a évolué, s'est perfectionné. On sait, par exemple, comment les bactéries peuvent non seulement muter et donc acquérir, mais aussi acquérir ce qu'on appelle des plasmides de résistance. Et ceci est favorisé par les échanges entre bactéries et même entre familles de bactéries. Donc, une résistance apparue en un point peut très très rapidement s'étendre à toute une population.
Ce qui est intéressant, alors je repose peut-être un peu ma question, Anne-Marie Moulin, à partir de quand les scientifiques ont commencé à travailler sur l'antibiorésistance en tant que phénomène propre et à vraiment creuser cette question-là?
C'est venu en même temps qu'on s'intéressait à la génétique bactérienne, la génétique bactérienne, la génétique des bactériophages, avec cette idée de du passage, de l'échange, de la communication entre bactéries, c'est quelque chose qui a été étudié, puisque cela permettait d'accéder à la compréhension des mécanismes fondamentaux de la vie. Et la résistance aux antibiotiques n'est qu'un aspect de cette évolution.
Mmh. On peut parler aussi d'un contexte plus général, Anne-Marie Moulin, c'est le fait qu'on prescrit certes des antibiotiques aux humains, mais on en prescrit aussi beaucoup aux animaux. La deuxième moitié du XXe siècle, c'est un boom de la mondialisation, l'industrialisation de la production agricole et notamment de la production de viande animale. Quelles conséquences va avoir aussi cette surprescription de vétérinaires d'antibiotiques aux animaux sur l'accélération majeure de l'antibiorésistance?
C'est un aspect fondamental, parce qu'en fait, cette extension impressionnante de l'antibiothérapie aux élevages animaux, permettant d'obtenir des élevages dans des conditions malsaines, par exemple des poulets tassés les uns contre les autres dans des élevages qui ne survivraient pas s'ils n'avaient pas des antibiotiques pour juguler les infections. Et malheureusement, il n'y a pas toujours assez de rapports étroits entre médecine vétérinaire et médecine humaine, parce qu'en fait, ce phénomène des résistances des infections aux bactéries, des infections aux antibiotiques, a été constaté chez les animaux. Et d'où l'augmentation des doses utilisées, et aussi le fait que quelque part, alors qu'on commençait à se préoccuper de l'antibiothérapie humaine, en particulier en France, on a laissé dériver, et c'est relativement tardivement qu'on s'est préoccupé de cette antibiothérapie animale et du rôle qu'elle jouait dans la résistance aux antibiotiques en clinique humaine.
Vincent Libis.
Oui, je pense qu'il y a un parallèle à faire avec toutes les menaces à long terme en fait auxquelles fait face l'humanité, changement climatique, antibiorésistance, c'est tout le temps des échelles de temps longs où en fait on n'a pas un sentiment d'urgence et donc il y a assez peu de raisons de réagir à tous les niveaux. Et un autre aspect, c'est que les antibiotiques, c'est un bien commun. En fait, c'est pas le patient lui-même qui va souffrir d'une bactérie résistante s'il utilise ou son médecin le surprescrit un antibiotique dans la mauvaise indication. Mais en fait, ça peut être ensuite à l'autre bout du monde que cette bactérie qui a développé une résistance chez quelqu'un va avoir un impact. Donc, il s'agit vraiment de jouer en équipe et on peut pas avoir même une partie du monde, certains pays qui vont pas forcément avoir les mêmes règles d'administration des antibiotiques, en fait, vont gêner l'efficacité des antibiotiques au niveau mondial, puisque les bactéries ne connaissent pas de frontières, tout comme
oui,
les virus.
Ça circule en même temps que les marchandises, en même temps que les animaux. Anne-Marie Moulin, ce qui est aussi inquiétant dans cette accélération de l'antibiorésistance, c'est l'apparition de bactéries multirésistantes. Alors, expliquez-nous un petit peu ce phénomène et quelles sont finalement les bactéries multirésistantes les plus fréquentes et sur lesquelles il faudrait qu'on trouve des solutions de façon un peu urgente.
Les bactéries multirésistantes, évidemment, l'exemple privilégié, c'est celui de la tuberculose. La tuberculose pouvait paraître à un moment en voie d'extinction. Elle a, en fait, à partir des années 90, elle a repris de l'énergie, en particulier à cause de la concomitance avec l'arrivée du VIH, du sida. Et la tuberculose qui avait connu ses premiers antituberculeux, donc tout de suite après la Deuxième Guerre, là a commencé à se heurter au problème d'une résistance. Problème accentué par le fait que, dans beaucoup de cas, c'est un traitement long et que quand les gens vont mieux, surtout si le traitement est cher, le traitement est interrompu. Donc, à partir de 1990, donc en plus de l'effet sida, on voit apparaître des tuberculoses multirésistantes. On a de plus en plus de mal à traiter avec des antibiotiques plus coûteux, plus toxiques et parfois plus longtemps, et surtout en étant sûr que les gens prennent bien leurs médicaments. Mmh. C'est là le grand événement de la dernière décennie du XXe siècle.
Vincent Libis, sur le site de l'OMS, on peut lire la chose suivante. La résistance aux antibiotiques atteint désormais des niveaux dangereusement élevés dans toutes les régions du monde. De nouveaux mécanismes de résistance apparaissent et se propagent dans le monde entier, compromettant notre capacité à traiter les maladies infectieuses courantes. Pour un nombre croissant d'infections comme la pneumonie, la tuberculose, la septicémie et la gonorrhée et les maladies d'origine alimentaire, le traitement devient plus difficile, voire impossible parfois, du fait de la perte d'efficacité des antibiotiques. Est-ce qu'on peut dire que le secteur des antibiotiques dans l'histoire de la médecine est l'un des rares à avoir fait machine arrière, à être revenu en arrière?
Bah exactement. Au fond, on a un nombre fini d'antibiotiques dans notre arsenal thérapeutique. Or, les bactéries actuellement évoluent plus vite des résistances contre ces antibiotiques-là qu'on arrive à découvrir de nouveaux antibiotiques. Donc, il est urgent d'accélérer le rythme de découverte si on veut gagner cette course. Et le rapport de l'OMS a des prédictions assez sombres. Donc, ils prédisent qu'en 2050, on fera face à près de 10 millions de morts directement causées par la résistance aux antibiotiques. Donc ça, c'est des chiffres qui en feront une cause de mortalité majeure, donc même devant le cancer, par exemple. Oui. Donc c'est vraiment une menace qui va aller en s'empirant. Et effectivement, c'est un des seuls champs de la médecine où on a l'impression d'avoir de moins en moins d'outils pour combattre les maladies.
Sachant qu'actuellement, l'antibiorésistance cause, je crois, un peu plus d'un million de morts par an, ce qui est déjà considérable. Anne-Marie Moulin, on va en venir maintenant forcément aux pistes de réflexion pour contrer cette antibiorésistance, aux techniques alternatives éventuellement aux antibiotiques. Peut-être que si on revient quand même aux traitements antibiotiques en eux-mêmes, est-ce que on a des moyens aujourd'hui de combiner certaines molécules antibiotiques pour lutter contre l'antibiorésistance?
Depuis le début, on a découvert que en croisant deux antibiotiques, on diminuait les résistances. En associant un bactéricide et un bactériostatique, donc l'idée d'employer deux médicaments, en particulier pour la tuberculose. Et la tuberculose actuellement, on est à des quadrithérapies, donc ça veut dire quatre antibiotiques pour croiser le feu, suivant une métaphore militaire qui est souvent employée. Mais moi, je pense qu'il faut quand même insister face à dans ces considérations biologiques sur l'importance des facteurs sociaux. L'humain, par exemple, la tuberculose multirésistante, elle est devenue d'autant plus un problème grave que des circonstances sociales la facilitent. Par exemple, les tuberculoses multirésistantes dont on a eu quelques exemples à Paris provenaient souvent de personnes de l'Est qui avaient été emprisonnées. Le système des prisons est particulièrement favorable par la promiscuité, etc., à l'acquisition, à la contamination, en particulier par la tuberculose. Et à cause du système de justice en Russie, par exemple, reste en prison juste le temps idéal pour se contaminer, à peu près un an, parce que la justice est très lente, et ils ressortent pour contaminer leur famille et éventuellement tous les gens qu'ils peuvent rencontrer sur leur chemin. Donc, dans la lutte contre la résistance, il n'y a pas seulement un facteur biologique et des recherches de laboratoire qui sont évidemment importantes, mais il y a aussi toute une réflexion sur la façon dont ces infections sont transmises.
Donc ces infections sont transmises, mais aussi la façon dont on les traite, et notamment ça va du côté de la prescription médicale. Là aussi, est-ce que vous constatez, Anne-Marie Moulin, des évolutions notables? Bon, on se souvient tous de cette campagne publicitaire « Les antibiotiques, c'est pas automatique ». Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est entré dans les normes, dans les règles en Europe, mais peut-être pas partout dans le monde?
Oui et non, c'est très difficile. En fait, l'idée, elle remonte au moins aux années 90, qu'il faut garder les nouveaux antibiotiques pour des choses graves. Par exemple, si vous vous souvenez, dans les années 90, l'augmentin, un nouvel antibiotique, on recevait des consignes des hôpitaux de ne pas l'utiliser en clinique de ville ou pour des infections banales, et de le réserver pour des cas graves. Et là, malgré cela, ça a été impossible. L'augmentin a été largement prescrit, en particulier en pédiatrie, pour des infections banales, ce qui fait que cette molécule qui devait être thésaurisée, en fait, a été très très vite dévaluée par sa large utilisation. C'est assez difficile. Le médecin est face à un individu, et c'est assez difficile. Ça demande toute une éducation, à la fois du praticien et du malade qu'il a en face d'une lit.
Vincent Libis, ça c'est pour le côté pratique et le côté prescriptif au sein de nos sociétés. Si on en revient aux travaux de recherche aujourd'hui pour lutter contre l'antibiorésistance, vous évoquiez le fait tout à l'heure qu'on connaisse 3%, je crois, de molécules antibiotiques. Là aussi, votre travail, vous, avec votre projet sur Science à l'appel notamment, c'est d'explorer de trouver de nouvelles molécules. Est-ce qu'il y a des espaces, par exemple, comme l'espace marin, où il faudrait aller aussi chercher ces molécules-là? Est-ce qu'il faut vraiment relancer des grands programmes de recherche de bactéries contre d'autres bactéries?
Bah oui, je pense, surtout que maintenant on a accès à ces nouvelles technologies qui changent un peu la donne, donc toutes les technologies de l'ADN. Non seulement on peut détecter des gènes avec un potentiel pour fabriquer des nouveaux composés antibiotiques, mais aussi ensuite, avec des approches de biologie moléculaire, on est capable de copier-coller ces gènes dans des autres modèles en laboratoire pour les forcer à s'exprimer, pour activer la production de ces molécules. Oui, je pense que c'est un petit peu une chasse au trésor. Il y a un côté exploration, essayer de parcourir le monde, mais aussi les océans potentiellement. Pour trouver ces nouveaux gènes. Malheureusement, cette chasse au trésor, elle se fait dans un contexte un peu d'urgence, puisque quand bien même on découvre une nouvelle molécule avec une propriété antibiotique aujourd'hui, ensuite, c'est des échelles assez longues pour garantir leur innocuité, leur efficacité chez l'homme. Donc, il faut prévoir, en fait, au moins une dizaine d'années à l'avance. Or là, l'horloge tourne, donc c'est pour ça qu'on lance la recherche aujourd'hui.
Le génie génétique fait aussi des grands pas en avant. On l'a vu avec CRISPR Cas9 récemment. Est-ce que là aussi on pourrait, avec ces ciseaux moléculaires, aller s'attaquer directement aux gènes responsables de la résistance des bactéries? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Je crois qu'il y a des travaux de recherche qui sont menés dans ce sens-là.
Oui, alors il y a tout un pan de la recherche qui, par exemple, s'intéresse à maîtriser, mieux contrôler en fait le microbiote humain. Donc pas forcément utiliser un antibiotique qui va éliminer toutes les bactéries sans faire de tri, mais qui des approches qui consistent à aller, par exemple, modifier un seul membre de la communauté microbienne pour en fait laisser en vie les bactéries qui nous sont bénéfiques, par exemple sur notre peau ou dans nos intestins.
Mmh. Ça aussi, c'est une des grandes révolutions de ces 10, 15, 20 dernières années, c'est de comprendre qu'il y a un écosystème bactérien en nous qui nous est très utile et qui est très vertueux.
Ouais, les antibiotiques sont des armes un petit peu de destruction massive quand il s'agit de modifier un microbiote, puisqu'elles tuent une grande partie des bactéries. Mais aujourd'hui, il y a un pan de recherche qui s'intéresse à modifier précisément le microbiote. Donc, par exemple, on peut utiliser des phages, donc des bactériophages, des virus de bactéries, pour aller modifier, rendre silencieux, par exemple, un gène de résistance dans une bactérie. Et notamment, on a des champions français dans ce domaine. Il y a, par exemple, une entreprise de biotechnologie qui s'appelle Eligo Bioscience, qui est devenue spécialiste en fait de modifier un micro-organisme en particulier sans modifier les autres.
Mmh. Anne-Marie Moulin, sur ses travaux, Vincent Libis évoquait à l'instant les bactériophages. La phagothérapie, ça pourrait être une alternative intéressante à l'antibiorésistance. Si oui, pourquoi, mais dans quelles limites?
À la phagothérapie. Mais c'est quelque chose qui n'a jamais complètement disparu. Mmh. C'est quelque chose qui était en particulier très utilisé dans les pays de l'Est.
Bien sûr, ça existe depuis les années 20, depuis 1920 à peu près.
C'était un Français d'ailleurs,
tout à fait.
Félix Derel, un pasteurien.
Ah, Félix Derel, une figure. Mmh. Et cette figure très originale, en fait, il y avait une particularité de la phagothérapie, c'est qu'elle était adaptée à l'individu, c'est-à-dire qu'on prenait les bactéries qui était caractéristique de l'affection de quelqu'un, et on cherchait donc les bactériophages qui pouvaient concrètement lutter contre cette infection.
Mais quand on parle de bactériophages, je rappelle, ce sont non plus des bactéries, mais des virus.
Des virus, des bactéries. Voilà. Ce sont des virus. Donc, par définition, ce sont des alliés naturels des médecins. Mmh. Mais c'est cette fabrication qui a été très très importante dans certains pays, en France. Il y a eu des essais, en particulier à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, a rencontré un grand scepticisme et surtout la difficulté était de fabriquer des préparations qui soient spécifiques d'un malade et d'une maladie donnée. Donc c'était quelque chose qui était complètement en désaccord avec la production de masse des outils antibiotiques. Mmh. C'est théoriquement un traitement ad hominem pour un malade donné. Mais ce que je voudrais souligner le fait que actuellement il y a quand même un paradoxe, et que d'un côté on dénonce les méchantes bactéries qui mutent, etc., mais aussi on exalte ces bactéries qui nous veulent du bien et ces microbes qui nous veulent du bien, comme dit Sansonetti, et en particulier le microbiote. Donc l'idée d'utiliser le microbiote, c'est-à-dire notre arsenal bactérien pour traiter nos infections, c'est une idée intéressante, mais finalement en contradiction avec la lutte contre la bactérie. En particulier, on le voit bien à propos des infections de la peau. Normalement, la peau, il y a un microbiote sur la peau qui joue un rôle très important. Décaper ce microbiote avec des lavages répétés, avec du gel hydroalcoolique ou un autre antiseptique, c'est quelque chose qui finalement est contradictoire. Donc le problème actuel, je pense que c'est une des grandes difficultés, mais aussi des choses passionnantes, c'est de trouver un équilibre entre le respect de l'écosystème microbien à l'intérieur de l'organisme et la lutte contre les bactéries avec des moyens chimiques extérieurs.
Et on terminera...
Un équilibre à trouver entre les deux.
On terminera sur ce paradoxe et ce nécessaire équilibre à trouver pour faire des antibiotiques nos alliés, non pas lutter contre l'antibiorésistance de façon éternelle. Merci beaucoup à tous les deux, Anne-Marie Moulin et Vincent Libis, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Bois par Mélissa Lavo pour conclure en musique cette émission. Un grand merci à toute l'équipe d'Eureka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Loïc Dutoit, Garance Prema Agnolo, David Jacuboviaz à la réalisation accompagnée de Sam Bakiast. À la technique aujourd'hui, c'était Grégory Wallon. Vous pouvez, comme chaque jour, réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans le grand bain d'Eureka et d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir.
Chloé ?
Oui ?
T'es bien ? Je vais te montrer les étoiles.
Moi, les étoiles, je suis pas contre. Surtout si ça me fait aller me coucher plus tard.
Le premier podcast France Culture, Savoir et Science, dédié à la jeunesse. Les mondes de Chloé. Le nez en l'air et la tête dans les étoiles. Histoire de grandes et petites ours. Entre fiction et astronomie, la première saison consacrée au ciel et aux constellations. Les mondes de Chloé, à la belle étoile, par Alice Buteau et Charles Trou sur franceculture.fr et l'appli Radio France.